Bonjour Bénédicte Duchaffeau, vous êtes enseignante au Centre théologique de Mélan. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce centre? En quoi consiste-t-il? Qui suit les enseignements de ce centre?
Alors c'est un centre donc qui est situé à Grenoble, Mélan-Grenoble, qui a été il y a un certain temps le séminaire interdiocésain et qui en 70 est devenu le centre théologique de Mélan. À ce moment-là, la formation qui était réservée aux prêtres dans le grand séminaire a été transférée à Lyon. Et donc, le centre théologique de Mélan est devenu un centre offert à tous qui propose des formations, à la fois de formation chrétienne, biblique, théologique, philosophique, anthropologique, mais aussi à des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, des questions de société, d'éthique au sens le plus large. Donc, un centre très varié et qui tient aussi tout ce qui est interreligieux pour quelque chose de tout à fait central dans son programme.
Et alors, comment est-ce que ça se manifeste, ce côté interreligieux central?
Alors, sous toutes les formes, parce qu'il y a à la fois des propositions de cours, il y a des cours sur les grandes religions, qui sont des cours d'initiation, avec des cours plus pointus sur l'islam, ce que, par exemple, je suis amenée à faire sur l'islam, sur le Coran, sur le dialogue islamo-chrétien, mais aussi des conférences dans lesquelles on propose à des gens de venir faire une soirée. Par exemple, Christian Salençon va bientôt venir parler dans quelques jours de Christian de Chergé, qui a été, comme vous le savez, le prieur de Tibérine, dont on fête l'anniversaire de l'assassinat cette année, mais ça peut prendre aussi une forme de colloque. Et par exemple, avec le bouddhisme, on a beaucoup utilisé cette formule des colloques. Dès 1999, on a proposé un colloque sur la non-dualité. En 2003, un second colloque sur la construction de la paix. Et là, tout récemment, en juillet, sur le thème des pratiques spirituelles bouddhistes et chrétiennes.
Pour revenir sur ce dernier colloque, quand vous parlez de pratiques spirituelles, est-ce que c'était une comparaison, une mise en parallèle des différentes pratiques ou la découverte tout simplement de ce qui se fait dans une autre religion, un enrichissement mutuel? Dans quel but est-ce que vous faites de tels colloques en fait?
On a fait ça, je crois, à la fois pour que chacun prenne conscience de ses propres trésors, parce qu'il y a des trésors dans la tradition chrétienne, mais aussi permettre aux chrétiens de découvrir les trésors de la tradition bouddhiste. Et donc de permettre, en fin de compte, des regards croisés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a intitulé notre colloque Pratiques spirituelles bouddhistes et chrétiennes en hospitalité, avec ce très beau mot de l'hospitalité, qui est finalement de se laisser atteindre aussi par la tradition de l'autre et de voir en quoi elle peut enrichir notre propre tradition, la mettre en question, l'enrichir, la repropulser d'une façon nouvelle.
Et alors pour vous personnellement, suite à ce colloque, comment est-ce que vous avez envisagé d'enrichir votre propre tradition chrétienne par des éléments du bouddhisme?
Je crois qu'il y a des pratiques qui sont celles de l'assise, par exemple, qui peuvent être pratiquées par un chrétien et qui peuvent enrichir la prière telle qu'elle est faite et telle qu'elle est pensée dans la tradition chrétienne. Sans penser qu'on fait pour autant du syncrétisme, mais je crois que l'assise peut être apporter une certaine sérénité, une certaine paix, un certain chemin pour des chrétiens. Mais paradoxalement, on peut aussi redécouvrir dans la tradition chrétienne des éléments, par exemple les mystiques rhénans, qui apporte, je crois, quand on la redécouvre, ce que peut apporter aussi le bouddhisme à la tradition chrétienne. C'est-à-dire que dans notre propre tradition, on peut aussi trouver des éléments de spiritualité qui peuvent nourrir la tradition chrétienne en la faisant prendre toute son ampleur.
Alors, vous êtes intéressé au bouddhisme de quelle façon?
Eh bien, parce que il y a autour de Grenoble deux grands centres bouddhistes qui sont tous les deux d'ailleurs dans la tradition tibétaine. C'est donc pas tout le bouddhisme. Il y a aussi un bouddhisme japonais. Il y a d'autres grands courants bouddhistes. Mais il se trouve que là, ce sont deux centres qui, en fait, proposent à des occidentaux donc de pouvoir prendre contact avec cette tradition bouddhiste. Et il se trouve que ces deux centres sont très vivants et que depuis de longues années, nous avons eu des liens ensemble et à tel point que nous avons été invités mutuellement au colloque que faisaient les uns et au colloque que faisaient les autres. Et donc, il y a des passerelles qui se sont faites de façon très très concrète par cette proximité, par cette amitié. Et je crois que très souvent, les dialogues interreligieux commencent comme ça, en fait, par une histoire d'amitié, par une proximité, par des invitations réciproques.
Mais d'abord, c'est l'islam que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Vous avez été tout 7 ans au service des relations avec l'islam de la Conférence
Voilà,
épiscopale de France.
tout à fait. Il se trouve que j'ai été par la vie amenée à vivre en Tunisie et qu'après cela, j'ai fait une formation spécialisée dans le domaine de l'islam, puisque j'ai fait ma maîtrise de théologie spécialisée dans ce domaine. et qu'après, je me suis sentie appelée à porter le pont entre ces deux traditions, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. Et c'est vrai que je l'enseigne, je forme un certain nombre de gens de façon très large. Ça peut être des élus, des travailleurs sociaux, des enseignants du public et du privé. Et on m'a demandé, il y a maintenant 8 ans, de rentrer dans ce service de la conférence des évêques de France, de pouvoir rentrer donc dans le service des relations avec l'islam. Ce SRI porte pour l'Église catholique de France le souci de la relation avec les musulmans et avec l'islam. Et nous avons notamment sorti un très beau texte en 1998 qui encourageait les catholiques à dialoguer avec les musulmans en France. Et ce texte ça a été une avancée importante de pouvoir provoquer un peu les chrétiens dans cette nécessité du dialogue avec les musulmans en France qui sont maintenant très nombreux puisqu'ils sont, on pense, de l'ordre de 5 millions.
Ce service, quelle action a-t-il justement? Comment encouragez-vous les chrétiens en France à prendre conscience de cette réalité de l'islam, de l'importance d'un dialogue?
Alors ça se fait beaucoup, disons, de façon décentralisée. Donc en principe, au niveau des diocèses, il y a un délégué et qui est nommé par l'évêque et qui a cette responsabilité, qui forme autour de lui en général une équipe. Et cette équipe a le souci de promouvoir un certain nombre d'actions. Alors ça peut être des rencontres au moment du ramadan, ça peut être des soirées qu'on fait en invitant par exemple une personne du côté catholique, une personne du côté musulman. Ça peut être aussi de mettre en œuvre des formations. Ça peut prendre des tas de modalités très, très variées. Mais je crois que c'est ce travail qu'on peut faire au niveau locale est aussi importante que ce qui est fait au niveau national. Mais les deux niveaux sont aussi importants l'un que l'autre.
Vous parlez du niveau national, mais il y a aussi le niveau européen, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes à Rome en ce moment. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que c'est que ce comité Islam Europe ?
Alors, ce n'est plus tout à fait le comité Islam Europe, on l'appelle maintenant le comité pour les relations avec les musulmans en Europe. Et ce qui est plus intéressant d'ailleurs, parce que ce n'est pas l'islam, mais surtout les musulmans, enfin, c'est aussi cette réalité-là, c'est-à-dire des communautés, tout un ensemble de communautés qui sont maintenant, donc, à l'échelle européenne, une réalité tout à fait importante, mais en même temps assez diverse, puisque vous avez un islam de l'Ouest, et puis vous avez un islam beaucoup plus ancien, qui est l'islam de l'Est, c'est-à-dire celui qui est lié plus à l'histoire de l'ancien empire ottoman, et donc qui prévaut dans les Balkans, en Bulgarie. Dans l'Europe de l'Ouest, c'est beaucoup plus une histoire basée sur l'immigration. Donc il y a des tonalités très différentes et en même temps, il y a aussi des tonalités différentes au niveau des églises chrétiennes, puisqu'il y a des églises qui sont à majorité catholiques, mais il y a aussi des églises qui sont anglicanes, luthériennes, orthodoxes. Et ce comité est tout à fait intéressant parce qu'il met ensemble à parité des catholiques et des non-catholiques, dans le souci de prendre en compte tout ce qui se passe au niveau de l'islam en Europe.
Et le comité lui-même, de qui est-il composé ?
Alors, il est donc fait de ces deux parties à parité. Donc, en gros, on est une petite vingtaine, la moitié catholique, la moitié non catholique. En général, nous nous réunissons 2 sessions par an que nous essayons de faire dans diverses capitales européennes ou villes européennes pour varier les lieux et en même temps avoir à chaque fois des rendez-vous, des rencontres justement avec des musulmans ou avec des responsables d'église. Et donc nous essayons de travailler entre ces deux sessions de façon active pour justement essayer d'élaborer un certain nombre de documents ou de continuer à prolonger nos réflexions. Mais en gros, le mandat peut aller de 4 à 6 ans et donc avec ce rythme de rencontres 2 fois par an. Et c'est très très riche comme expérience, vraiment c'est passionnant.
Riche en quel sens ?
Alors riche parce que je crois que c'est quand même le seul comité européen qui soit vraiment œcuménique. Et ça c'est tout à fait intéressant. Je dirais que à la limite ça allait de soi que le dialogue interreligieux passe par le souci de la communion déjà entre les églises. Et c'est le cas, le fait de l'avoir voulu œcuménique nous fait déjà prendre conscience entre catholiques, anglicans, réformés, orthodoxes, etc., de la richesse et en même temps de la diversité de nos regards, même par rapport à ce sujet qui est la rencontre avec les musulmans. et en même temps de l'exigence d'une communion, d'une unité, d'une convergence de nos points de vue. Donc il y a déjà là un élément extrêmement riche. Et quand en plus cet élément-là se déploie dans le dialogue interreligieux, je dirais qu'on a là la quintessence de ce que peut être vraiment un comité chrétien au plein sens du terme.
Et côté musulman, quel retour est-ce que vous pouvez avoir ? Est-ce que ces comités, ces réunions, ces discours ont une conséquence concrète dans vos relations après avec les musulmans en Europe ?
Alors, on essaye à chaque fois d'avoir des musulmans qui viennent aussi nous parler lors de ces grandes rencontres 2 fois par an. Et je pense qu'effectivement, ce tissu va permettre petit à petit d'irriguer nos réseaux respectifs. Et notre grand souci, c'est de pouvoir, à travers la rencontre des musulmans, enrichir notre dialogue, à la fois parce que nous avons beaucoup à recevoir d'eux, mais peut-être parce que aussi nous pouvons leur apporter une certaine confiance dans la façon dont ils peuvent investir l'Europe et puis en chacun de nos pays en particulier, et les épauler dans un certain nombre de démarches ou de réflexions particulières. Donc je crois qu'il y a là une responsabilité qui est tout à fait fondamentale, surtout dans un moment où les crispations peuvent être ressenties comme plus vives pour un certain nombre de questions qui touchent à l'actualité, soit internationale, soit même au niveau de l'Europe. Il nous incombe d'essayer de travailler pour dénouer des préjugés, pour enrichir ce débat et faire comprendre aux uns et aux autres qui nous sommes vraiment respectivement, que nous avons finalement à vivre vraiment ensemble, en paix, à la fois dans nos traditions et dans nos contextes institutionnels, nos contextes sociaux, politiques. Et que notre objectif, c'est vraiment de trouver une façon de vivre en paix et une façon peut-être pour nos traditions respectives, musulmanes et chrétiennes, de pouvoir apporter une quête de sens dans nos sociétés qui sont quand même très sécularisées et où parfois les références religieuses ont perdu de leur force. Et je crois qu'il nous revient de montrer que nous pouvons avoir une parole éthique au sens fort pour enrichir le débat commun.
Est-ce que c'est là la place que vous donnez aux musulmans, puisque vous avez dit qu'ils pouvaient investir l'Europe ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que c'est justement cette position éthique, ce fait d'être allié, si on peut dire, aux chrétiens, dans cette quête de sens ou d'absolu qui est un petit peu mise de côté en Europe ?
Oui, tout à fait. Allié pas au sens d'un front commun des religions, parce que je crois qu'on n'est pas là pour se battre contre, mais alliés pour irriguer la société, qui par ailleurs a aussi des courants humanistes, hein, qui ont toutes leurs valeurs, mais de cette transcendance qui nous est chère et que nous vivons les uns et les autres à travers nos traditions respectives et qui du coup peut colorer nos paroles éthiques. Je crois qu'il y a quand même un lien avec la façon dont nous pouvons concevoir la vie, le frère, la solidarité, la responsabilité. Et je crois que tout ça est des responsabilités qui nous sont communes.